C'est parti.
Comment fidéliser un client? La question que moi je peux te poser d'entrée, c'est aujourd'hui, est-ce que si tu dis à tous tes clients que tu es overbooké et que tu ne peux pas prendre leur commande, qu'est-ce qui se passe à ton étape aujourd'hui dans ta carrière créative? Si tu dis, OK, je n'ai plus la possibilité de prendre votre demande. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils s'en vont tous ou est-ce qu'ils vont attendre?
Retrouver dans cette situation là.
Ok. C'est peut-être une réflexion que chacun d'entre nous pourrait faire. Donc, imaginez vos clients. Pour ceux qui sont en freelance, pour ceux qui ont le désir de créer une agence, et dites-vous, OK, si aujourd'hui je dis à tous mes clients, tous mes clients me font une demande à la fois et je leur dis tous non, je ne peux pas prendre votre demande, est-ce qu'ils vont ailleurs ou est-ce qu'ils disent tu es libre dans combien de temps? Donc, en termes de prestations de service, il y a ce qu'on va appeler l'expérience client, ça c'est un volet ou la qualité du travail que tu fais. Donc, si tu peux amener la qualité du travail à un point où, même si tes clients ont du choix, ils reviennent vers toi, c'est déjà le premier pas pour fidéliser ces clients. Donc, pour moi, la première chose, c'est la qualité de travail. Donc, ta qualité de travail doit être assez irréprochable pour que même si ton client a le choix, ils reviennent vers toi. Parce que parler des choses comme le branding, le positionnement, l'expérience client en termes de comment est-ce que je réponds aux mails, comment est-ce que je dialogue avec mon client, en fait, tout ça, c'est très technique, c'est très spécifique et ça demande une grande connaissance ou d'avoir eu à gérer beaucoup d'autres clients différents. Donc, la seule chose que je peux dire qui peut s'appliquer à tout le monde, ici, c'est ayez une qualité de travail irréprochable au point où on ne veuille pas vous remplacer. Donc, ça, c'est le premier. Ensuite, on peut parler du savoir-être. Donc, la qualité de travail, c'est le savoir-faire. Et on peut parler du savoir-être de l'expérience client. Maintenant, au niveau du savoir-être, c'est en fonction du positionnement que tu est-ce que tu te fais proche de tes clients? Est-ce que tu es ami avec tes clients? Est-ce que tu leur fais des cadeaux? Est-ce que chaque début d'année, tu as quelque chose, tu as une approche qui fait que tes clients sont assez contents d'être avec toi pour ne pas vouloir aller voir ailleurs? Pour ce que je peux dire pour tout le monde, c'est numéro un, savoir-faire. C'est un travail irréprochable. Ça, c'est ce qu'on peut partager tous. C'est le seul conseil qui est vrai pour tout le monde. Les autres choses qu'on peut dire en plus, c'est plus des bonus, c'est plus dans le sens de, je sais pas, la façon dont tu rédiges ton mail, la façon dont tu réponds à tes clients, la façon dont tu es proche d'entre eux, la façon dont tu mets en œuvre un service client, etc. Moi, si je dois parler d'Horta Service, on n'a pas beaucoup de clients. Généralement, on a maximum 10 clients par an. Genre, vraiment, si on a trop de demandes dans une année, c'est 10 clients différents. Maintenant, ces 10 clients différents peuvent nous amener différents projets. Donc, on peut avoir plusieurs projets par client et le nombre de clients qu'on a n'augmente pas drastiquement d'une année à une autre. Mais ce que je sais, c'est que j'ai des clients, de grands clients à qui je vais dire je suis libre dans 6 mois et ils vont attendre dans 6 mois que je sois libre. Je peux dire qu'il y a des clients où ils ont attendu 8 mois, 9 mois avant qu'on ne commence leur projet de design de logo. Il y a plein de designers. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'ils aiment ma tête. Ça, je le dis, mais c'est parce que j'aime la qualité du travail que je fais. La plupart des clients me trouvent difficile parce que j'impose des limites. Je vais dire, OK, avec mon entreprise, quand tu veux nous faire une commande, tu nous avertis 5 jours à l'avance. Quand tu nous avertis 5 jours à l'avance, c'est nous qui définissons quand est-ce qu'on peut te livrer. Donc, si un client vient me voir et me dit, j'ai besoin d'une affiche pour demain, c'est non. Il n'y a rien à faire. S'il vient me voir, il me dit, j'ai besoin d'une affiche. Dans la communication, je ne dis pas, enfin, je ne suis pas impoli envers mes clients. Je leur explique
Non,
pourquoi. Bon, je reste très professionnel dans l'approche. Mais en tout cas, tu sais que avec nous, c'est on avertit 5 jours ouvrables à l'avance. Avec nous, c'est nous qui évaluons la charge de travail pour te dire le temps que ça va prendre. Et c'est à ce moment qu'on te fait, je sais pas, un devis ou tout ce qui va avec. Mais je suis très professionnel. J'essaie d'être compréhensif. J'écoute mes clients et je vais au-delà de ce qu'ils me demandent. Donc, si quelqu'un vient me voir et me dit j'ai besoin d'un site web, je ne vais pas dire, OK, quels sont les tests qu'il y a à mettre sur le site web, quelle police, c'est quoi votre charte graphique. Je ne vais pas aller dans le technique. Je vais d'abord aller dans comprendre son besoin. Pourquoi il pense qu'il a besoin d'un site web? Qu'est-ce qu'il veut accomplir? De quoi il dispose dans son sein, au sein de son équipe, comme ressources humaines, comme ressources techniques, à quel point il comprend ce que ça veut dire de construire un site web. Et est-ce que je vais essayer d'évaluer avec lui? Est-ce que faire un site web est réellement la chose la plus importante pour lui au moment du projet? Et je vais essayer d'évaluer avec lui s'il n'y a pas une solution plus simple ou moins coûteuse pour atteindre son objectif. Et ce n'est que lorsque c'est des oui partout que je peux lui dire, OK, dans tel nombre de temps, on va commencer avec ton projet de site web. Voilà ce dont on aura besoin. Du coup, cette démarche où tu essaies vraiment de comprendre le besoin de ton client, ses contraintes et comment est-ce que ce que tu vas faire lui permettra de générer du bénéfice, fait que quand tu es dans cette approche à la longue, les clients, ils n'ont juste plus envie d'aller ailleurs. Et c'est pour ça que je parlais de tout ce que je dis en plus, c'est vraiment des choses que tu acquiers avec l'expérience, avec le temps et qui ne sont pas universellement. Mais la qualité du travail est universelle. Ensuite, je vais aller vers Jeff Ta. Quel est l'avenir du design graphique au Bénin?
Waouh.
Bon, pour une question, c'en est une grande. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, historiquement, nous avons connu, je vais parler pas très précisément, mais je vais essayer d'aborder ça de façon générale. Nous avons connu l'ère de la pierre taillée, nous avons connu l'ère de la domestication, l'ère de l'agriculture, l'industrialisation, et nous avons connu le boom de Internet, et aujourd'hui on est à l'heure de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, avec de l'intelligence artificielle, je peux générer, je ne sais pas si je peux générer des affiches avec du test. Mais je sais que je peux générer plein de compositions graphiques intéressantes. Je peux générer des illustrations. Personnellement, j'ai pas encore eu à tester des IA qui génèrent des affiches et tout, mais je sais que ça va venir. Et du coup, dans cette ère d'intelligence artificielle où je sais qu'à un moment ou à un autre, les clients pourront générer automatiquement des affiches. Quel est l'avenir du graphisme au Bénin? Donc, je vais diviser la question en deux parties. Donc, aujourd'hui, nous avons des graphistes professionnels qui vont utiliser des outils pour aider leurs clients à communiquer. Et même avant de partir à ce niveau, normalement, il faut déjà savoir c'est quoi un graphiste et c'est quoi ce qu'il fait. Donc, moi, je fais une grande distinction entre le graphiste et le designer graphique. Donc moi, je fais une très grande distinction entre les deux. Pour moi, un graphiste, c'est quelqu'un qui a de la compétence technique avancée ou pas dans un domaine et qui est capable d'exécuter un projet avec une direction artistique claire et avec un brief créatif clair. Donc, un graphiste a besoin d'un brief créatif pour fonctionner et d'une direction artistique pour fonctionner. Et dans la réalité du Bénin, la plupart des graphistes n'ont pas de direction artistique. Ça, c'est très rare, à moins que vous travaillez en agence. Et la plupart du temps, ils n'ont même pas la chance d'avoir des briefs très bien définis. Donc, ce sera généralement des gens qui vont avoir un client qui vont dire, qui va leur dire, je veux faire un événement pour X ou Y. Et à partir de ça, ils vont aller chercher des inspirations sur Internet et faire une affiche pour communiquer de l'information. Donc, le graphiste en soi, puisque ce qu'il va faire, c'est du détourage, c'est du montage, c'est des choses techniques. À mon sens, si on se limite à être graphiste, on a beaucoup de chances d'arriver à un moment où des gens développent des intelligences artificielles pour faire ce qu'on fait. Ce qu'il faut savoir avec les intelligences artificielles, c'est qu'ils sont capables d'exécuter mieux que des humains des choses techniques. Aujourd'hui, pour faire du détourage, tu vas dans Photoshop, tu fais sélectionner un sujet. Avant, il fallait utiliser l'outil plume ou il fallait utiliser l'outil sélection et combiner l'outil sélection avec plein de capacités techniques pour pouvoir sélectionner une personne dans une image. Aujourd'hui, avec les algorithmes et avec le fait que Photoshop ait appris de milliards, je vais dire de millions de projets de design graphique à identifier des hommes et grâce à l'intelligence artificielle, il suffit juste de faire sélectionner le sujet et la personne est détourée automatiquement. Donc, cette compétence technique de l'humain à détourer un homme n'est plus utile parce que ça a été introduit comme une fonctionnalité dans un logiciel. Et moi, mon point de vue, c'est plus vous aurez ou vous êtes fort à faire des choses techniques, plus vous avez de chances d'avoir une part de votre travail remplacée. Parce que ce n'est pas, enfin, tu ne vas pas te sentir fier à passer 8 heures de temps à détourer une photo d'une personne qui a des mèches dans l'air. Ça n'apporte rien en termes de valeur ajoutée au travail de l'affiche que tu vas faire. Donc, l'avenir du graphisme au Bénin ou l'avenir du graphiste au Bénin est préservé jusqu'à ce que il y ait à chaque fois des intelligences artificielles ou des nouvelles fonctionnalités dans les logiciels pour faire ce à quoi ils sont super bons. Avec Adobe Firefly aujourd'hui, vous pouvez, c'est l'intelligence artificielle de Adobe qui vont probablement intégrer dans leur suite. Vous pouvez faire des effets, ajouter la lune quelque part, mettre la photo d'une personne et demander qu'il y ait un volcan qui soit en éruption. Vraiment des compétences qui étaient très techniques que seules les personnes qui avaient pratiqué ça pendant des heures et des années pouvaient en fait réaliser. Mais aujourd'hui, une machine peut le faire mieux que vous, plus vite que vous et beaucoup, et le rendre beaucoup plus réaliste que vous. Donc, en tant que graphiste, il faut savoir comment se positionner. Par contre, dans le marché, de façon globale au Bénin, le graphiste a une place intéressante et qui va prendre peut-être 10 ans, 15 ans à être complètement, avant de devenir complètement obsolète. Il faut savoir que nous tous qui sommes ici, peu importe le chemin qu'on choisit dans le design, il y aura une compétence qu'on a aujourd'hui qui n'aura plus son sens demain parce que quelqu'un va décider qu'une machine est plus apte à faire ça que nous en tant qu'humains. Donc, même en design UI, même en design de vidéo, il y aura, je prends le motion graphisme par exemple, il y a des plugins After Effects qui vous permettent de faire des ease in, ease out facilement. Quand vous faites du UI, il y a des plugins qui vous permettent de générer des sets de couleur code. Il y a des templates qui sont là de base qui vous permettent de faire X ou Y. En fait, il y a beaucoup de plugins, il y a beaucoup de choses qui permettent de remplacer quelque chose qu'un humain savait faire, mais qui est juste trop chiant, trop technique et qui n'a pas de bénéfice réel. Les graphistes ont encore leur place entièrement dans la communauté béninoise, en tout cas, moi, à mon sens, parce que on n'est pas encore à cette étape d'industrialisation de tous les procédés. On est encore à une étape où beaucoup de gens doivent comprendre ce que c'est que le design, doivent comprendre ce que c'est l'intérêt du design graphique. On a beaucoup de packaging qui ne sont pas encore designés. On a toute une industrie qui est embryonnaire. Donc, c'est très bien d'être pionnier dans cette industrie-là, tant dans l'exécution de la compétence que dans la formation des gens à acquérir la compétence. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à un moment ou à un autre, ces compétences techniques vont être remplacées parce que ces gens sont remplaçables. Maintenant, la différence que je fais avec le designer graphique est que le graphiste, il exécute une commande de façon technique, mais le designer graphique va s'inscrire dans une démarche méthodologique pour comprendre le besoin de son client au-delà de je veux une affiche, mais pour comprendre le positionnement, pour comprendre l'usage qui va être fait, pour comprendre où est-ce que l'élément sera utilisé et va être dans une approche de résolution de problématiques et non dans une approche technique pour sortir un visuel et faire joli et plaire aux gens. Donc le designer graphique va être plus dans l'usage, dans l'utilité, dans le positionnement, dans tout ce qui est l'environnement autour de la production. Et la production sera juste une étape dans son processus créatif. Et en termes de design graphique, on a beaucoup de domaines d'application. On peut être un designer graphique dans le domaine du motion design. On peut être un designer graphique dans le domaine du brand identity. On peut être un designer graphique dans le domaine du packaging. Et si on est un designer graphique et qu'on veut se faire assez de sous, qu'on choisisse d'être dans du visual identity, dans du logo design, dans de l'illustration, dans du graphisme, pour packaging, dans de l'éditorial ou dans du design pour de la com, parce qu'il y a les graphistes, les designers graphiques qui vont se déployer en agence de communication et c'est des industries différentes. Si tu fais du design graphique pour la communication, tu ne fais pas le même travail que quelqu'un qui fait du design graphique pour du packaging. Et si tu fais du design graphique pour la communication institutionnelle, tu te différencies de quelqu'un qui fait du design graphique pour de la publicité dans l'agroalimentaire. Et plus tu te niches, plus tu as un positionnement spécifique, plus tu peux avoir ce qu'on appelle des high tickets ou vendre ta compétence très chère et être un spécialiste de ton domaine. Donc, à mon sens, le designer graphique, il a toujours sa place. Le graphiste a sa place, mais il va être remplacé. Le designer graphique, puisque dans sa méthodologie, il y a une étape quand même où il est graphiste. L'étape où il est graphiste, aujourd'hui, il va le faire lui-même, mais plus le temps va avancer, plus il y aura de tâches dans son exécution qui seront remplacées ou améliorées avec de l'intelligence artificielle ou avec toute autre technologie. Voilà la longue réponse à la question de Jephtha. Mervin. Donc, Mervin, je vais voir ta ou tes questions. Tu demandes comment créer un catalogue clientèle et gérer ses clients en tant qu'indépendant. Donc, comment créer un catalogue clientèle et gérer ses clients en tant qu'indépendant? Donc, je pense que j'ai parlé de comment avoir des clients en début de session avec la question de Jacques, je crois. Maintenant, comment créer un catalogue client? Pour moi, étant designer au Bénin, la meilleure façon de créer un catalogue client efficace va passer en deux étapes. Il y a le Bénin en tant qu'environnement qui est spécifique, et il y a le monde, et il y a plein d'autres, je vais dire, particularités. Donc, si moi je suis au Bénin aujourd'hui et je veux reprendre la création d'un catalogue client, je vais participer à toutes les conférences ou les événements que je peux trouver qui sont sur l'entrepreneuriat des femmes, l'encouragement, enfin, les trucs, tout ce qu'on va organiser pour encourager l'entrepreneuriat, je vais y aller. Et c'est comme ça, moi, j'ai fait. Quand j'ai fini en agronomie en 2016, que j'ai fait mes 2 ans dans un laboratoire de génétique, j'allais souvent à tout ce qui est conférence, à tout ce qui est événement, et j'allais parler aux gens. Je leur disais bonjour, je suis designer graphique, je fais ceci, je fais cela. Mais avant de leur dire, je les écoutais. Enfin, c'est une chose qu'il faut savoir. La meilleure façon de vendre, c'est d'écouter. Il faut écouter la personne, il faut comprendre ce qu'il fait, il faut comprendre ses challenges, il faut comprendre ses besoins. Et ce n'est qu'à ce moment que vous avez fini d'écouter la personne, que vous pouvez placer un pitch de vente. Donc, j'écoutais les gens. Je vais donner un exemple très banal. Le Rodrigue Aco, le photographe du président de la République, je crois que c'est le gars Rasta. C'est le seul photographe officiel qui est là depuis le début du mandat du chef de l'État. Moi, je l'ai eu comme client ou je l'ai comme client aujourd'hui depuis 2019. On est en 2023, on s'écrit, mais si je l'ai eu comme client, c'est parce que j'allais à tous les événements que l'État organisait à l'époque et je lui parlais. Lui ne me connaissait pas, mais moi, je le connaissais parce que moi, je voulais l'avoir comme client, je voulais ouvrir une opportunité avec lui. J'ai été à un événement, deux événements, trois événements. Je lui ai parlé pendant les trois événements, mais ce n'est qu'au quatrième événement où je lui ai encore parlé que là, en fait, on a parlé très longtemps. On a parlé pendant 1 heure. J'ai essayé de comprendre mais comment il est devenu photographe, comment il a commencé, d'où est-ce qu'il est parti, c'est quoi sa réalité. Et en fait, c'était une séance de travail, je crois, c'était au Golden Tulip et c'était quelque chose qui avait rapport aux énergies renouvelables. Je n'avais rien à faire là. Énergie renouvelable, design, agronomie, ça n'a rien à voir. Et on a beaucoup parlé. À la fin, il me dit, mais toi, tu es super intéressant. C'est la première fois que je te rencontre. J'aimerais avoir ton contact. Moi, je l'avais déjà rencontré 3 fois auparavant, mais lui, pour lui, c'était la première fois qu'il prenait conscience de ma personne. Et à aucun moment, je lui ai dit ce que je faisais encore. Et c'est après 1 heure de discussion qu'il me demande, mais toi, tu fais quoi? Je dis, ah, moi, je suis designer graphique et je fais aussi des sites web. Et c'est comme ça il fait, ah d'accord, c'est bien ça. Chouette, il s'en vaille pas. On échange des contacts, il me donne son numéro privé. 2 semaines plus tard, mon téléphone sonne, je vois Rodrigue Kofi Akoh, puisque c'est son nom. Je décroche, il dit, ah voilà, ça va. Je parlais avec un ami qui a besoin d'un site web et il dit qu'il veut faire un site. C'est des sites web, tu as dit que tu fais déjà, non? En principe, moi, principalement, je fais du design graphique et des sites web. J'en fais avec WordPress, mais plus en partenariat avec des amis. J'ai dit oui, j'en fais. C'est comme ça qu'il m'a branché à un de ses amis. Je lui ai fait un site web. Ils ont apprécié. Et bon, après, il y a trouver le client et il y a avoir la capacité de formuler un cahier de charge, de rédiger une proposition client et d'exécuter correctement le travail. Donc, je différencie les deux. Ici, on est vraiment à comment est-ce qu'on démarche le client. Donc, c'est comme ça, j'ai fait cette première prestation. Ils m'ont demandé un cahier des charges que j'ai rédigé. Je suis designer éditorial, donc j'ai fait un bon édito qui présente mon cahier de charges, qui présente ce que je vais faire, comment je vais le faire, pourquoi je vais le faire. Et j'ai eu ce premier client ensuite, lui-même en tant que Rodrigue Aco, il est venu me voir, il a dit, je veux faire une exposition photo et j'aimerais que tu m'en fasses le site web. Et je lui ai fait son site web personnel qui s'appelle carnetderoute.photo, carnet de route avec S, point photo, où il expose ses photos personnelles. Donc, c'est pour dire, si tu veux avoir un carnet d'adresses de clients au Bénin, participe à des conférences et va voir des gens. C'est vrai qu'il y a l'option de publier sur les réseaux sociaux et je vais en venir en tant que deuxième façon d'avoir des clients. Mais pour moi, au Bénin, ce qui fonctionne mieux, c'est aller voir et rencontrer les gens. Parce que chez nous, on dit, le Béninois ne va pas acheter un truc emballé, il va vouloir toucher, il va vouloir ouvrir, voir pour découvrir. Le gars, il veut te voir, il veut voir si tu ressembles à quelqu'un de sérieux. Il veut te voir, quoi. Il veut voir, il veut te voir, il veut te voir tout simplement. J'aurais aimé dire, il veut te toucher, mais il veut pas te toucher, mais il veut tout au moins te voir pour être rassuré. C'est en fait en partant d'un premier client qu'on a un deuxième. Et moi, ma définition de client, ce que j'appelle client aujourd'hui, c'est toute personne avec qui j'ai déjà fait au moins 3 contrats différents et qui m'a recommandé à 2 personnes. Si tu m'as pas, si avec toi, j'ai pas fait 3 contrats différents et je t'ai pas recommandé à, tu m'as pas recommandé à 2 personnes, tu n'es pas un client, tu es un prospect. Et ce n'est que lorsqu'on aura fait 3 contrats différents et que tu m'auras recommandé à 2 différentes personnes que tu seras mon client. Donc, dans cette démarche-là, pour moi, avant d'aller chercher des clients, il faut être bon. Franchement, si tu n'es pas suffisamment bon et que tu vas chercher des clients, Bon, tu vas ruiner ta réputation si ce côté de il faut que vous soyez bon, vraiment bon, avant de chercher à épandre ou à avoir trop de clients en même temps. Parce que quand vous n'avez pas un process de design clair, quand vous n'avez pas une approche méthodologique claire qui vous permet de savoir dès le moment où le client vient toquer à votre porte, tout ce qu'il faut faire jusqu'au moment où il sort et comment entretenir la relation après ça, c'est. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis juste que c'est un peu dangereux et d'avoir de grands clients. Vous pouvez avoir de petits clients parce qu'il y a toujours un petit client qui nous permet de devenir meilleur afin d'avancer vers de plus gros clients. Mais si vous allez tout de suite viser grand, viser gros, avec une démarche méthodologique bancale, avec une approche technique pas très aboutie, vous ne créez pas une bonne réputation. En tant qu'indépendant, sois bon et fournis un travail de qualité et tu seras recommandé. Faites du bon travail et ensuite on va vous recommander. Domaine de l'entrepreneuriat au Bénin. Quelles sont les obligations des entreprises au Bénin en matière de législation? Donc, cette question est un peu vaste et je ne pourrais pas y répondre, mais je peux te dire ce qu'il y a des établissements. Quelles sont les obligations des entreprises au Bénin en matière de législation? Donc, je ne peux pas dire en matière de législation non plus. Et les entreprises, déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs formes juridiques d'entreprise. En tant que freelance, la chose que moi, je vous conseillerais, c'est de ne pas créer d'établissement. En tout cas, pas au début. Allez demander un numéro ISU et faites des factures normalisées. Tant que vous faites ces deux choses-là, ça va. Payez votre AIB ou faites-vous prélever l'AIB lorsque vous faites des prestations. Et quand vous prélève l'AIB, désolé, demandez le reçu de paiement. Donc, je vous donne un cas classique. Vous êtes tous, je vais supposer que vous êtes tous des designers freelance. Un, vous devez avoir un numéro IFU. Ça, c'est obligatoire. Et de plus en plus difficile de s'en passer au Bénin. Deux, vous devez faire des factures normalisées à chaque prestation que vous faites. Je ne sais pas à quel moment, peut-être qu'on va faire un talk sur un AOA talk sur comment facturer ses prestations au Bénin. Ça, c'est pour un autre jour. Mais les deux choses qui sont importantes, c'est d'avoir un numéro IFU et de faire des factures normalisées. Une fois que vous faites ces deux choses-là, faites un process. Essayez toujours de créer un process pour vos travaux. Première étape, le client me demande un travail. Deuxième étape, je l'appelle, on fait le brief, peu importe comment vous faites vos évaluations de charge de travail sur un besoin client. Ensuite, je lui fais une facture normalisée. La facture normalisée n'est pas la facture, je dis encore la facture normalisée. Je lui fais une facture pro forma. La facture pro forma n'est pas une facture. Une facture pro forma, c'est juste une facture que vous faites avant même de commencer un travail pour s'assurer que le client et vous, vous vous êtes entendu sur le prix de la prestation et sur les choses qui sont prévues dans la prestation. Donc, vous faites une facture pro forma, vous envoyez et vous lui demandez de valider la pro forma en disant bon pour accord avant que vous ne démarrez le travail. Une fois que vous avez démarré le travail, en fonction de vos termes et conditions, si vous prenez 60% au début, 40% à la fin, ou si vous travaillez en mode je fais tout le travail, je suis payé à la livraison. Ça va dépendre de vous et de votre client et de votre niveau d'avancée dans votre vie professionnelle aussi. Donc, une fois que vous êtes arrivé à l'étape de faire la facture, puisque vous allez faire généralement de la prestation intellectuelle en tant que designer graphique, l'État exige qu'on vous prélève 3% du montant de la prestation pour ce qu'on appelle l'AIB. Ou 5% lorsque vous n'avez pas de numéro IFU. Donc, quand vous faites une facture de 100 000, ça veut dire que la personne va vous payer 97 000. Et si la personne vous paye 97 000, ce n'est pas que les 3 000 là, il empoche ça, il mange ça. Et ce n'est pas à lui de payer les 3 000. Donc, ce n'est pas une histoire de je vais facturer 103 000 ou qu'il me paye 100 000. Bon, si on fait le truc, si on fait le talk sur comment facturer, je pourrais en parler plus tard. Mais en fait, c'est votre obligation en tant que citoyen de contribuer aux revenus de l'État en payant ces 3% ou ces 5%-là. Donc, si vous avez un numéro IFU, vous gagnez 97 000 à la fin. Si vous n'avez pas de numéro IFU, vous gagnez 95 000 à la fin. Et c'est à ce moment-là, vous faites des factures. Une fois qu'on vous a payé vos 97 000, que ce soit par chèque ou en espèces, Et il faut éviter de prendre les montants de plus de 80, de plus de 100 000 en espèces. Si on vous doit de l'argent pour une prestation et que ça dépasse les 100 000, ce n'est pas bon de le recevoir en espèces. Si ça passe, personne ne s'en plaint pour vous. Demain, ça va rattraper l'entreprise qui vous a payé plus de 100 000 francs en espèces. Il va se faire redresser lorsque il fera le bilan de son entreprise. Donc, aujourd'hui, si je vous en parle, c'est pour que dès le début, vous ayez les bonnes pratiques. Donc, quand vous aurez pris vos 97 000, vous allez aller demander à l'entreprise qui vous a payé les 97 000, vous lui faites une lettre ou un mail, j'aimerais recevoir le reçu de paiement de l'AIB, et vous gardez ce reçu de paiement-là. Donc, en tant que freelance, si vous arrivez à faire tout ça, franchement, c'est les meilleures choses que je peux vous conseiller. En termes de bonnes pratiques, soit vous allez utiliser Momo pour recevoir votre argent, il faut avoir au moins un compte bancaire. Et normalement, il faut faire passer toutes ces transactions par ces comptes bancaires. Mais je sais qu'au Bénin, c'est très difficile. Les gens préfèrent payer cash. Personne ne veut aller faire le rang à la banque. Donc, il y a une grande différence entre la théorie et la réalité. Mais si vous aspirez à créer une entreprise, c'est là où il faudra être un peu rigoureux sur un certain nombre de démarches administratives. Donc là, vraiment, j'ai parlé que de freelance. Lorsqu'on quitte le statut de freelance ou lorsqu'on arrive à maîtriser ce minimum de jonglage administratif en tant que freelance, on peut passer au niveau supérieur qui, à mon avis, c'est de créer un établissement. Et comme j'ai fait un post sur ça sur LinkedIn qui a un griffe percé, mais si vous ne faites pas moins, si vous faites moins de 3 millions par an en termes de chiffre d'affaires en tant que graphiste, c'est pas la peine d'aller créer un établissement. Vous allez vous ruiner, vous allez vous fatiguer, vous allez finir déprimé, burn-out, tout ce qui va avec. Vous n'allez pas être heureux parce que vous allez vivre de façon misérable. Et vous allez avoir des impôts qui vont vous asphyxier. Donc, soyez sûr de générer de façon certaine 3 millions par an avant de créer un établissement, sinon restez en freelance. Et il ne faut pas aller parler de SARL, de SAS, de SA. C'est plus vous avancez dans la forme juridique, plus vous avez de problèmes. Bonne pratique en tant que freelance, ayez un conseiller juridique, que ce soit un ami qui a étudié le droit, ou quoi que ce soit, ayez un conseiller juridique, lisez les contrats avant de les signer, faites lire vos contrats avant de faire signer des contrats à quelqu'un d'autre. Et voilà, c'est ce que moi je peux dire. Moi, je me rappelle pour le workshop Logo Design que j'avais organisé, il y avait mon conseiller juridique qui est venu pour, je crois, 4 heures ou 8 heures d'échange avec les participants, où c'était lui et moi, on faisait comprendre tout ce qu'il y avait de juridique dans être un freelanceur. Et même ça, en fait, c'est aussi très, c'est beaucoup de questionnements et de problématiques. Pour finir, je dirais, ne soyez pas impressionné par tout ce qui est exigence légale. On commence toujours quelque part en ne sachant pas ce qu'on fait. Et c'est en avançant qu'on apprend, au fur et à mesure qu'on fait des erreurs, à affiner sa démarche et à mieux comprendre les choses. Au départ, moi, j'avais juste un conseiller juridique. Mon conseiller juridique, au départ, je le payais 25 000 le trimestre. Aujourd'hui, je crois qu'il a son 15 000 par trimestre. Donc, c'est le même. Et ma capacité à lui payer plus a augmenté. Sa capacité à me demander plus a augmenté. Et plus je vais grandir, plus mon entreprise va devenir plus complexe. Plus j'aurai besoin de différentes choses. Aujourd'hui, je n'ai besoin que d'un conseiller juridique, que d'un conseiller fiscaliste et d'un comptable. Peut-être à un moment, j'aurai besoin d'un avocat. Mais parce que dans ma démarche, je n'ai pas voulu devenir tout de suite trop grand, trop complexe. J'ai pris le temps de savoir faire moi seul. Au départ, j'allais sur Google pour chercher des modèles de contrat. Aujourd'hui, au moins, vous avez ChatGPT. C'est vrai que c'est pas un legal advisor, mais il peut quand même faire un bon nombre de choses. Ensuite, quand j'ai fini de maîtriser comment écrire des contrats par moi-même et que je me suis fait douiller sur un ou deux contrats, j'ai dit, bah, c'est le moment de prendre un juriste. Ensuite, j'ai pris un juriste. Il a commencé par m'aider à faire de meilleurs contrats. Mais parce que je faisais des recherches Google sur les contrats avant de prendre un juriste, j'arrivais à donner un point de vue clairvoyant sur ce qu'il m'écrivait. Je ne prenais pas ça juste comme parole d'évangile. Je lisais. Et je faisais de vrais retours sur la structure juridique. Et demain, lorsque j'aurai un avocat, je sais aussi comment m'y prendre, ou j'aurai déjà une idée de comment m'y prendre, parce que j'ai déjà commencé par lire les tests de loi, sur les procédures de marché public en République du Bénin et les procédures pénales, les procédures en termes de conflits pour le tribunal de commerce. En fait, c'est en ayant des problèmes et c'est en grandissant avec les expériences qu'on arrive à avoir plus de connaissances pratiques sur ces choses-là. Pour la gestion de finances d'une entreprise, quelles sont les erreurs à éviter? Oui, c'est comprendre un peu de tout et maîtriser un domaine principal. C'est bien ça, Valérie. C'est bien ça. En tant qu'entrepreneur, vous devez comprendre tout. Vous devez, enfin, je ne vous suggérerais pas d'entreprendre dans un domaine dont vous ne connaissez absolument rien, ou tout au moins il faudra lire beaucoup sur le domaine. Elon Musk, c'est un exemple qui est très mauvais, mais avant de lancer SpaceX, il a lu des milliers de livres sur c'est quoi l'aéronautique, c'est quoi un spaceship, enfin un vaisseau spatial, quelles sont les contraintes dessus. Il a d'abord compris son domaine. Donc, plus vous comprenez un domaine, mieux vous pouvez devenir expert dans le domaine. Et il faut comprendre, lorsque j'ai parlé, ou c'est pendant ces brèves minutes, lorsque j'ai parlé de tout ce qu'il y a dans maintenir le côté légal ou financier de l'entreprise, ça n'a rien à voir avec le travail de designer. Donc, si tu n'es pas un bon designer déjà, si ton travail n'est pas assez bon, quel temps tu as pour aller essayer de maîtriser, je ne sais pas, c'est quoi AIB, c'est quoi TPS, c'est quoi impôt, c'est quoi un juriste, c'est quoi un conseiller fiscal. Donc, il faut déjà avoir cette base-là de OK, je suis bon dans mon travail. Si vous ne dépassez pas cette étape, tout le reste, vous allez brasser du vent ou bien vous allez juste de, je ne sais pas. Enfin, vous serez un homme en plus dans la masse de ce qui est produit comme contenu sur Internet. Donc, moi, mon point de vue, c'est vraiment de devenir très bon dans ce qu'on fait. Aujourd'hui, les domaines qui sont abordés dans mon entreprise, c'est du design graphique, visuel, c'est du design éditorial et c'est du design de produits numériques parce que c'est, pour moi, à mon sens, les domaines où je juge être ultra bon et où je peux faire de vrais retours au designer qui travaille avec moi. Lorsque un designer de mon équipe me présente un édito, je sais ce qui ne va pas, je sais où ça ne va pas, je sais pourquoi ça ne va pas. Lorsque je vais dans son INDD, dans son fichier InDesign, je peux voir toutes les erreurs techniques qu'il a faites, je peux ensuite voir toutes les erreurs qui sont liées au principe de design qu'il a faites, et je peux lui faire un retour éclairé, pas un retour en mode je n'aime pas trop le style de ceci, je n'aime pas trop le style de ça. Mais je peux lui dire, ici, il y a telle règle de design que tu n'as pas mis en application. Ici, au niveau de la technique, de l'exécution du projet que tu as fait, je donne un exemple. Tu as utilisé un saut de ligne au lieu d'un saut de paragraphe. Tu as utilisé un saut de bloc au lieu d'un saut de page. Et voilà les conséquences que l'utilisation de cette approche technique-là a sur la suite du document. Et voilà ce que ça aura comme conséquence si on te demande un retour ou si on te demande d'améliorer ce que tu as fait. Donc, parce que j'ai fait assez de design éditorial, je peux donner des retours pointus. Parce que j'ai fait des logos et que j'ai fait assez de logos, je peux donner des retours pointus. Quand la vectorisation n'est pas bonne, quand les proportions ne sont pas bonnes, quand le balance, quand l'équilibre visuel n'est pas bon, je peux donner des retours. Mais c'est parce que j'ai déjà pris de 2000, j'ai commencé à étudier le design en 2014. De 2014 à 2020, j'ai pris, disons, 6 ans à faire des choses. C'est en 2020, j'ai commencé par recruter les premiers collaborateurs de design que j'ai eus. Et c'est ça qui m'a permis de pouvoir déléguer. Et de 2020 à aujourd'hui, 2023, ça fait 3 ans, j'ai déjà recruté probablement plus de 30 personnes et j'ai déjà géré dans ces 30 personnes-là au moins 20 designers différents. Et ces 3 dernières années, avec le fait où j'étais à l'école, m'ont appris à déléguer. Parce qu'au départ, je n'aimais le design de personne. Je trouvais toujours nul. Peu importe le design que tu vas faire, ce sera nul. Et c'était impossible d'arriver à me plaire niveau design. Mais avec le temps, j'ai appris à lâcher du lest. J'ai appris à donner du temps aux autres, d'apprendre et de faire des erreurs, parfois sur des projets clients. J'ai appris à couvrir les arrières de mon équipe. Parfois, si le client donne un travail, je laisse ça à l'équipe et l'équipe, désolé, produit de la merde. je suis obligé de tout reprendre et de reprendre dans le délai pour quand même pouvoir livrer le travail de qualité qu'on attend de moi dans les délais. Ça fait mal à ton équipe design lorsque tu reprends tout le travail à zéro. Leur ego est blessé. Mais au final, lorsque tu leur montres pourquoi c'est pas bon et que même ils constatent que c'est pas bon, bah, ça suit. Ils ont l'envie de se dépasser, d'atteindre ce niveau où tu n'as plus à reprendre leurs travaux. Et toi, en tant que gérant d'une agence, tu peux vraiment te concentrer sur la gestion, sur l'acquisition de clients, sur l'organisation de la vie administrative, sur l'organisation de la vie économique, sur l'organisation de du fonctionnement structurel de l'entreprise. Comment est-ce que la requête est transmise d'une étape à une autre? Quel outil vous utilisez? Est-ce que vous devez utiliser Google Drive? Est-ce que vous devez utiliser Google Workspace? Est-ce que c'est Notion? Est-ce que c'est Slack? Comment est-ce que vous devez communiquer sur Slack? Comment est-ce que vous devez lier le mail à Notion au Slack? En fait, bon là, je m'écarte de la question, mais vous allez remarquer, et peut-être ça va aider Resnick qui me disait qu'il veut être designer ou freelance ou un autodidacte. Ça va aussi aider Jeffta qui a dit en début qu'il est en train de mettre en place une agence. Mais ça va vous aider à avoir cette vue globale-là et savoir si vous, votre truc, c'est d'exécuter ou si votre truc, c'est de regarder de façon globale et de gérer. Parce qu'aujourd'hui, en tant que gérant d'une agence de design, je n'ai pas le droit de rentrer dans le Photoshop et de me mettre à faire des visuels ou des affiches si quelqu'un dans mon équipe, son rôle et son travail, c'est de faire des affiches. Même si j'en ai envie, je dois lui laisser son champ d'expertise et je dois lui donner la possibilité de mieux s'exprimer dedans. Si on a un édito à faire, je dois éviter à tout prix de le faire moi-même. Et les seules choses que je vais faire moi-même, c'est vraiment lorsque ce n'est pas du tout bon, ou lorsque je vois que à ce niveau-là, on va être en retard, ou on ne va pas livrer à temps au client, je prends la souris, je m'assois, je fais le travail, et au final, tout le monde voit que bon, le gars, il sait quand même faire le boulot. Donc, la gestion des finances d'une entreprise, je dirais, c'est des choses que vous apprendrez avec le temps. C'est des choses que vous apprendrez avec le temps. Je vous donne un exemple simple. On dit qu'il faut 21 jours pour acquérir une nouvelle bonne pratique ou une nouvelle habitude. C'est un mythe, ce n'est pas totalement vrai, mais supposons que ce ne soit pas totalement faux. Si on décide d'imaginer combien de temps il vous faudrait pour savoir gérer votre argent, on va transformer ces 21 jours-là en 21 mois parce que vous devez attendre 21 salaires. Et 21 mois, ça fait déjà 2 ans. Donc, ça veut dire qu'il vous faut 2 ans pour apprendre à gérer votre salaire. Et ce n'est pas des choses sur lesquelles il faut être pressé. Ce n'est pas des choses sur lesquelles il faut avoir envie de trouver la solution miracle d'un mois à l'autre. C'est des choses sur lesquelles on se donne 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Et on se dit en 10 ans, je vais apprendre à gérer mes finances. Je vais mettre en place des systèmes. Je vais expérimenter des choses. Je vais échouer et je vais reprendre jusqu'à être sûr que j'ai acquis tout ce qu'il faut comme compétences. Et moi, Dieu merci, j'ai eu un père qui a été très rigoureux sur la gestion des finances. Donc, j'ai commencé par essayer d'apprendre à gérer mes finances depuis 2012-2013. C'est drôle, mais j'ai des cahiers où, genre, même quand j'achète Gary 25 francs quand j'étais à l'université, tu vas voir le soir quand je vais rentrer, je vais mettre Gary 25 francs à mon soldat à 50 francs. Je suis en France, sinon je serais juste allé dans mes archives, j'aurais pris et je vous aurais montré à la caméra. Que bah, j'ai cette vision-là. Et même en France, ici, je peux vous montrer ça. Par contre, je ne sais pas si vous l'avez à côté, mais j'ai toujours un cahier. Là, ce n'est pas pour les finances, mais j'ai toujours un cahier dans lequel je note toutes mes actions, tous mes projets, toutes mes dépenses. Tout est suivi. Et c'est peut-être dès aujourd'hui dans votre vie personnelle que vous devez mettre en place un système de suivi de vos dépenses. Savoir où est-ce que vous dépensez de l'argent, savoir si c'est pertinent de dépenser de l'argent là. C'est maintenant dans votre vie personnelle que vous devez mettre en place un système pour savoir planifier vos dépenses. Je donne un exemple simple. Si je ne prévois pas un mois en avance que je vais faire une dépense personnelle, même si j'ai de l'argent et je ne sais pas quoi en faire, je ne vais pas le faire. Donc, si je veux acheter, je ne sais pas, cette souris, je l'ai achetée il y a 5 jours. Je l'ai acheté il y a 5 jours. Je prévois l'acheter depuis un an. Donc, Ça fait un an que je rêvais d'avoir une Logitech MX Master 3, mais ça m'a pris un an avant de passer de l'intention d'acheter au moment où j'ai acheté. Mes photos sur les réseaux sociaux, c'est des photos qui ont été prises par Darimage. Ça ne coûte pas ultra cher, mais ça m'a pris 2 ans du moment où j'ai voulu avoir une photo de Darimage jusqu'au moment où je suis passé au studio Darimage, payer l'argent pour faire le photoshooting. J'ai voulu acheter un MacBook Pro pour la première fois de ma vie en 2015. Et c'est en 2018 que j'ai acheté mon premier Mac. Donc, j'ai écrit en 2015 dans un cahier tout ce que je dis. Enfin, je l'ai dans des cahiers. J'ai écrit dans un cahier en 2015, je veux un MacBook Pro. Ça coûte tel nombre de millions de francs CFA. Il me faut tel nombre de contrats, etc. pour avoir. C'est pour dire vraiment qu'il faut, dès aujourd'hui, dans votre vie personnelle, intégrer des moyens de gérer vos finances, sinon ce n'est pas dans votre entreprise que vous allez réussir à gérer vos finances. Si vous ne pouvez pas gérer vos finances personnelles, vous ne pourrez jamais gérer les finances de votre entreprise. Selon votre expérience, il est-il avantageux de créer une entreprise au Bénin? Ça dépend. Vous créez une entreprise au Bénin que lorsque vous savez que vous avez déjà assez de contrats qui peuvent vous permettre de faire tenir ou de faire vivre l'entreprise. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui écrivent CEO de ci, CEO de ça sur leur profil LinkedIn. Il y a des gens qui disent qu'ils sont entrepreneurs. Moi, je ne remets pas en cause la volonté de dire qu'on est X ou qu'on est Y. Mais je juge que ce n'est pas parce que je suis en deuxième année ou même en cinquième année de médecine que je vais mettre sur mon profil LinkedIn docteur. Pour moi, c'est de l'usurpation de titre. Et lorsque je n'ai pas encore. Enfin, je peux être entreprenant dans le sens où j'entreprends beaucoup de choses. Mais pour moi, aujourd'hui, je ne dirais que je suis entrepreneur que lorsque j'ai au moins une entreprise ou deux entreprises et qui me permettent de générer de l'argent. Sinon, je préfère me dire moi-même que je suis entrepreneur et que je cherche à devenir entrepreneur. Du coup, est-ce qu'il faut créer une entreprise au Bénin? Oui, il faut créer une entreprise au Bénin. Moi, je n'aime pas le mot panafricaniste. Parce que j'ai un problème avec le mot, mais je suis très pour le développement du Bénin. Je suis pour créer de la richesse au Bénin. Dans ma philosophie de vie personnelle, je suis pour la création de la richesse, la création de l'emploi, la valorisation du talent local, le fait de ramener de la richesse internationale vers le Bénin. C'est pour ça que je suis en France. J'aurai des clients français. Je vais délocaliser la production au Bénin et ce sera de l'argent de la France qui va être envoyé au Bénin. J'aurai des clients aux États-Unis. Ce sera l'argent d'un Américain qui sera envoyé au Bénin. Lorsque vous achetez un iPhone, c'est l'argent d'un Béninois que vous envoyez aux États-Unis. Lorsque vous achetez un Windows ou un ordinateur, de peu importe la marque qui utilise le système d'exploitation Windows, c'est qu'à un moment, en tant que Béninois, vous avez pris votre argent et vous avez envoyé ça aux États-Unis parce que le Windows est créé par l'Américain. Si vous achetez un Samsung, ça veut dire que vous avez envoyé de l'argent en Corée pour Samsung et vous avez aussi envoyé de l'argent aux États-Unis pour Google qui fait Android, qui tourne sur tout ce qui est appareil Android tel que Samsung. Donc en fait, pour moi, dans ma philosophie personnelle, c'est important de créer une entreprise dans les pays africains. C'est important de générer de la richesse dans les pays africains. Mais avant de créer une entreprise dans un pays africain, au-delà de ce que ça fait à l'ego de pouvoir écrire CEO, même si c'est encore tout un autre débat, ou de pouvoir écrire gérant d'une entreprise, c'est de savoir réellement si c'est une action qui nous permet de générer de l'argent, de générer du revenu et de vraiment créer de la valeur, ou si c'est juste une action qu'on fait parce qu'aujourd'hui, on a dit à tout le monde qu'il faut être son propre patron, qu'il ne faut pas travailler pour quelqu'un et que on peut aller vivre à Bali et travailler de partout dans le monde en voyageant. Bref, il y a tout un discours marketing qui est fait pour une raison donnée sans vraiment fondement idéologique sur de la vraie création de valeur. Donc, avantageux de créer une entreprise au Bénin, je ne dirais pas. Quand je vois le mot avantageux, je ne dirais pas que c'est le plus avantageux. Je ne sais pas pour les autres pays. J'ai eu à créer des entreprises dans d'autres pays que le Bénin. Et je sais qu'il y a plus d'avantages à être hors du continent africain qu'être sur le continent africain. Mais quand je regarde mon idéologie, mes croyances et ma vision du monde, je me dis que pour moi, pour le sens de ma personne et de mes valeurs, c'est plus avantageux d'avoir mon entreprise au Bénin que de l'avoir aux États-Unis ou en Angleterre. Comment trouver des opportunités lorsqu'on est une entreprise? Pareil, avant d'être une personne morale, l'entreprise est une personne, est une incarnation d'une personne physique ou d'un groupe de personnes physiques. Les gens qui font confiance à Ota Service, c'est parce qu'ils ont fait confiance à Olafemi Adinda. Et c'est grâce à Olafemi Adinda qu'ils font confiance à Ota Service. Si vous avez une bonne entreprise avec une bonne culture d'entreprise et vous avez de bons employés qui croient en ce que vous faites ensemble, ce ne sera plus vous seul qui allez ramener les clients, mais ce sera vous tous qui allez ramener des clients. Donc, c'est le mélange des individus et des personnalités de chaque individu qui fait au final l'entreprise et qui fait en fait la capacité de l'entreprise à trouver des opportunités. La plupart des opportunités, que ce soit en commerce, que ce soit en design, parce que mon entreprise fait du commerce, que moi j'ai trouvé, c'est parce que j'ai eu à établir des relations humaines déjà avec des individus qui par la suite m'ont donné des contrats pour mon entreprise. Donc l'humain d'abord. Et en termes de ça, il y a un livre que moi je conseille à tout le monde. À mon sens, tout le monde doit lire ce livre. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Ce livre, pour moi, il a changé ma vie parce qu'il m'a appris comment on développe des relations intéressantes, qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit juste individu, qu'on soit un bon camarade de classe. En fait, dans ce livre, moi, j'ai appris à être un meilleur humain. Mais malheureusement, le piège avec les livres, c'est que tous les livres ne parlent pas de la même façon à toutes les personnes. Donc, s'il a été utile pour moi, je ne suis pas sûr qu'il sera utile pour vous. Ça dépend vraiment de votre vécu et de la situation particulière dans laquelle vous êtes au moment où vous accédez au livre. Donc, parfois, il ne s'agit pas que de lire des livres, mais il s'agit de lire le livre qui répond à une question que l'on se pose intérieurement au moment exact où on est dans son évolution personnelle.